Vous écoutez l'épisode 147 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je vous parle de mener un entretien, et notamment dans le cadre des rendez-vous avec les familles. Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Avez-vous appris à mener des entretiens et est-ce que vous vous sentez à l'aise pour le faire ? Lorsqu'on est prof, il existe plusieurs situations dans lesquelles nous allons être amenés à mener des entretiens, que ce soit des entretiens avec les parents d'élèves, mais parfois aussi avec les collègues, avec nos directions, avec des formateurs, des formatrices ou avec des élèves. Et parfois, on ne se sent pas forcément à l'aise ou formé pour le faire. On apprend un peu sur le tas, ou pas d'ailleurs, et quand on n'est pas prêt ni vraiment préparé, ben certains entretiens peuvent générer des situations relationnelles compliquées ou du stress. Et depuis que je coach, une grande partie de ma vie professionnelle est basée sur des entretiens et j'accompagne également des formateurs, des formatrices en devenir, notamment sur leur technique d'entretien. Il arrive également que dans certains coachings, j'accompagne des professeurs à préparer des entretiens avec des familles, par exemple. Et donc, dans cet épisode, je vous partage quelques points pour vous aider à mieux vivre, à mieux mener les différents entretiens professionnels. Et je vais me focaliser sur les rendez-vous avec les parents. Mais vous verrez qu'il y a des invariants que vous pourrez transposer selon votre fonction, selon vos besoins, à des entretiens différents, que ce soit avec des entretiens avec les élèves, des collègues ou d'autres professionnels, avec vos stagiaires, vos apprenants, etc. Donc concernant les entretiens avec les parents d'élèves, ce sont pour nous des entretiens professionnels, avec des enjeux professionnels donc, même si parfois ils peuvent avoir un impact émotionnel sur nous. Mais pour les familles, ce sont des entretiens avec des professionnels, mais qui concernent ce qu'il y a de plus personnel pour eux. Et c'est vraiment important de garder en tête cette dissymétrie, parce qu'en dehors des règles élémentaires de politesse qui sont évidemment attendues, si adaptation il doit y avoir, c'est aux professionnels de devoir se montrer le plus flexible possible dans cette relation qui se veut en même temps d'être dissymétrique, horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de subordination, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les parents et les professionnels et que tout le monde est là avec un certain niveau d'égalité. Et donc ça nécessite de se rappeler d'adopter une posture professionnelle dans ces moments-là. Un entretien, dans la mesure du possible, ça se prépare. Parfois par manque de temps ou peut-être de formation, on peut négliger cette partie. Pourtant, elle est importante pour pouvoir bien garder sa posture professionnelle. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, ça va dépendre des entretiens, mais il y a des choses à clarifier pour soi en amont. La première des choses, c'est de définir l'objectif et l'intention, qui sont deux choses différentes ici. Comme pour vos séances, définir l'objectif de l'entretien est primordial parce que sans objectif, nous pouvons vite basculer dans une discussion ordinaire qui peut parfois durer des heures et de laquelle on ressort parfois sans avoir spécialement avancé. Parfois, formuler clairement l'objectif va nous permettre de nous réajuster et de voir qu'on n'est pas dans une posture qui favorisera la discussion a priori. Dire qu'on a un rendez-vous avec des parents, ce n'est pas suffisant pour fixer un objectif. Ce n'est pas un objectif, avoir rendez-vous avec des parents. Et de même que remettre un livret, c'est pas un objectif. Ce sont simplement des occasions et déterminer les occasions ne suffit pas à déterminer un objectif ou à déterminer ses intentions. Par exemple, imaginons que vous ayez reçu un mot un peu désagréable et, suite à cela, vous demandez un rendez-vous aux parents pour en discuter. Sans fixer l'objectif, on pourrait craindre que chaque personne dans ce rendez-vous joue au jeu de qui a tort et qui a raison et que rien de très constructif ne ressorte de la discussion. Sans se formuler explicitement l'objectif du rendez-vous, ce qui peut se dessiner, c'est donc de faire entendre mon point de vue. Alors que si vous prenez le temps de formuler l'objectif et de l'écrire, peut-être que vous vous rendrez compte que l'objectif est plutôt d'apaiser ce parent pour qu'on puisse mieux continuer ensuite à collaborer, ou alors d'expliquer votre méthode d'évaluation, ou alors de trouver des solutions pour aider tel élève, etc. Donc formuler l'objectif, ça va permettre aussi de reprendre une posture plus professionnelle, de sortir un peu de l'émotion, là dans ce contexte-là, du mot désagréable qu'on a reçu, et d'apporter du cadre à l'entretien. Donc l'objectif n'est pas une cause ou une raison ou une occasion. Par exemple, nous nous rencontrons parce que vous m'avez écrit un mot, ce n'est pas un objectif. Par contre, l'objectif de l'entretien, c'est ce qu'on vise avec ce rendez-vous. Donc la remise des livrets, c'est une occasion, mais pas un objectif. Mais si vous réfléchissez, qu'est-ce que c'est finalement l'objectif quand vous remettez les livrets? Et est-ce que c'est le même pour tous les élèves? Et c'est important de se poser cette question-là parce que dans le cadre d'une remise des livrets qui parfois va assez vite parce que le temps est limité, si on n'a pas d'objectif, on peut un peu faire perdre du temps à tout le monde parce qu'on va utiliser ce temps sans être très efficace. Sans objectif, on va un peu partout et nulle part, quoi. Et puis, par contre, fixer un objectif, ce n'est pas si simple que ça. En coaching, par exemple, parfois je passe avec les personnes que j'accompagne souvent toute la première séance, c'est-à-dire au moins une heure, à fixer et déterminer un objectif clair. Parfois, selon le type d'entretien que vous mènerez, selon leur spontanéité aussi, vous pourrez définir l'objectif en concertation avec les personnes que vous recevrez. Par exemple, on pourrait très bien imaginer un rendez-vous de parents qui est plutôt sollicité par la famille ou bien fait spontanément un peu dans l'urgence sans qu'il soit préalablement prévu, suite à un événement dans la journée par exemple, où on n'a pas eu le temps de définir d'objectif au préalable ou alors où on ne l'a pas défini parce que ce n'est pas nous qui sollicitions l'objectif. Et bien dans ce cas, ça peut être une des premières choses qu'on fixe avec les familles au début du rendez-vous. C'est-à-dire quel est le but de ce rendez-vous et qu'est-ce qu'on souhaite obtenir ensemble. Et prendre le temps de fixer cet objectif ou de l'annoncer quand il a déjà été fixé, ça fait partie du cadre qu'on apporte au rendez-vous, à l'entretien, et ça fait partie de la posture professionnelle qu'on adopte. Quand on fait un entretien professionnel, et là je pense aux formateurs, formatrices, IEN, direction d'école, etc., on peut avoir parfois un objectif qui est plutôt institutionnel, qui relève un peu de l'occasion, comme j'en parlais tout à l'heure, un objectif qu'on a fixé au préalable, mais on peut aussi définir un objectif plus précis, un sous-objectif, avec la personne qu'on reçoit en entretien. Et ça, c'est aussi quelque chose qui devrait s'appliquer d'ailleurs aux réunions de travail. Quand on a l'impression qu'on passe notre temps en réunion et qu'on n'avance pas et qu'on ne sait pas où on va et qu'on en ressort, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est souvent qu'il n'y avait pas d'objectif prédéfini ou co-construit. Fin de l'aparté. Je vous disais aussi que je faisais une différence entre objectif et intention. C'est-à-dire qu'au-delà de l'objectif, qui est en gros ce qu'on vise pour l'issue de l'entretien ou ce qu'on veut atteindre, comme dans vos séances de classe, l'objectif, c'est ce sur quoi va idéalement aboutir l'entretien, ce qu'on va pouvoir en retirer, apprendre, etc. C'est le résultat, c'est la finalité. Et à la fin de notre entretien, on repartira avec, par exemple, trouver des solutions ou plus de clarté pour une situation ou bien avec des pistes de résolution, des actions à mettre en place, etc. Et là, vous voyez que c'est assez transposable à n'importe quelle sorte d'entretien. Alors que l'intention, ça va être le choix que vous allez faire, le choix que vous faites pour l'autre. C'est ce que vous allez décider soit de dire, soit de faire ou d'être au cours de l'entretien pour permettre d'atteindre l'objectif. Donc ça peut être l'intention, ça peut être un choix de posture, ça peut être une modalité d'entretien particulière, ça peut être aussi votre état d'esprit, ça peut être aussi une certaine énergie que vous avez envie de mettre dans cet entretien. L'intention, c'est un peu votre volonté. Donc l'intention que vous poserez sur un entretien va plutôt concerner le pendant, le déroulement de l'entretien, alors que l'objectif concernera plutôt l'issue. Par exemple, si l'objectif est de trouver des idées pour aider l'élève Maggie à se remobiliser dans sa scolarité, disons, eh bien peut-être que votre intention, ça va être d'être à l'écoute du point de vue des parents ou de donner la parole à Maggie ou encore de présenter une par une les compétences sur lesquelles vous souhaitez challenger ou accompagner Maggie. Peut-être aussi que vous aurez l'intention dans cet entretien-là, de recréer du lien avec les parents, d'être à l'écoute, ou encore peut-être que vous avez l'intention de mettre vos préjugés de côté pour pouvoir modifier les relations, ou bien de faire preuve d'empathie, de fermeté, etc. Bref, vos intentions, ce sont ce que vous allez faire, être, incarner en tant que professionnel pendant l'entretien pour pouvoir atteindre l'objectif que vous êtes fixé pour cet entretien. Donc pour finir sur cette histoire d'objectif et d'intention, fixer l'objectif et l'intention de l'entretien, c'est aussi ce qui va vous permettre de donner une ligne directrice à votre entretien et de maintenir un cadre, soit pour ne pas s'éparpiller, soit pour que ça ne dure pas trop longtemps, ou alors pour rester focus sur un sujet, ou bien pour gérer d'éventuels débordements émotionnels, ou pour arbitrer sur les sujets en cours d'entretien. Bref, comme pour une mise en commun dans une classe, dans une séance par exemple, c'est parce qu'on sait où on va, qu'on a fixé l'objectif et qu'il est clair pour nous, qu'on va pouvoir hiérarchiser les propos, sélectionner ce qu'on veut et faire des petits arbitrages pertinents pendant la situation. Un autre élément utile pour ajuster sa posture professionnelle pendant un entretien, c'est de déterminer le type d'entretien, c'est-à-dire de quelle sorte d'entretien en termes de format et de visée il s'agit. Ça va avoir un impact sur votre posture et aussi sur le type de prise de parole pendant l'entretien. C'est donc un autre élément qui peut vous aider, en plus de l'objectif et de l'intention, à préparer l'entretien. On peut se demander si c'est un entretien informatif, c'est-à-dire qui a juste vocation à transmettre et donner des informations. Est-ce que c'est un entretien au contraire de prise d'informations, où on va aller collecter des informations, des données chez quelqu'un, ou bien est-ce que c'est un entretien de co-construction de solutions ou de résolution de problèmes, ou bien est-ce que c'est un entretien de recadrage, et attention là à qui on recadre l'enfant, pas souvent les parents, même si ça peut arriver hélas. Et puis, le type d'entretien, c'est aussi la façon dont vous pensez le mener, c'est-à-dire le type de directivité. Est-ce que ça va être plutôt directif ou plutôt non directif? Un entretien directif, ça va être un entretien qui est basé sur un plan très précis, des questions, un peu à la manière d'une enquête ou d'un interrogatoire. Ou bien est-ce que c'est un entretien qu'on va qualifier de non directif et qui est complètement centré sur la personne qu'on reçoit, où on va être plutôt en posture d'écoute et de compréhension de l'autre en intervenant le moins possible pour pouvoir laisser la personne s'exprimer? Ou bien est-ce que c'est une forme plutôt hybride qu'on va qualifier de semi-directif avec un cadre et un plan plutôt déterminés, mais où la personne va quand même avoir l'espace de s'exprimer librement. Donc ça, c'est important aussi à définir et ça peut vous donner des indications sur votre manière de mener l'entretien. Une autre chose qui se prépare, c'est le contenu de l'entretien. Si c'est un entretien avec des parents, il va être important de préparer un minimum de données factuelles, comme des évaluations, des travaux, cahiers d'élèves, etc. Parce qu'on a parfois l'impression de très bien connaître nos élèves, et quand vient le moment d'en parler, on ne sait plus quoi dire. Vous voyez, c'est un peu comme vous quand vous vous connaissez plutôt bien, je pense, et pourtant, quand soudainement quelqu'un vous demande de vous présenter ou de présenter votre parcours, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours aisé et tout le monde n'est pas capable de pitcher sans préparation. Pour les élèves, c'est pareil. Donc quand on parle de nos élèves sans préparation, on peut se retrouver en mauvaise posture et donner des généralités, des banalités, et parfois beaucoup de jugements de valeur, mais rien de concret. Et même quand c'est du positif, dans le cas d'un élève sérieux, d'un élève agréable qui obtient de bons résultats par exemple, c'est pas forcément très constructif de ne pas être factuel. Bien sûr, un parent va toujours être content de savoir que son enfant est agréable et sérieux, mais parfois, en fait, on voudrait en savoir un peu plus. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller un peu plus loin et l'idée, c'est que vous puissiez parler des élèves en vous appuyant sur des compétences, sur les forces des élèves, sur des exemples concrets. Et c'est ce qui permettra en plus vraiment à l'élève de se saisir de vos commentaires, de les comprendre, de se les approprier pour pouvoir évoluer et progresser sans le mettre dans un état d'esprit fixe, qu'il s'agisse d'un élève avec des difficultés ou d'un élève plutôt en réussite. Et à ce sujet, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 67 sur l'état d'esprit de développement, parce que parfois ce qu'on dit aux élèves, ça les met dans un état d'esprit fixe, même quand c'est pour les féliciter. Donc, quel que soit l'élève, son niveau, son parcours, son profil, et quel que soit le contexte de l'entretien, préparez absolument des points d'appui, des points positifs sur les élèves pour vous appuyer dessus, même si a priori ce que vous avez à dire n'est pas que positif. C'est important de pouvoir partir de là et de pouvoir se positionner là-dedans et de montrer aux élèves aussi qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui va. Donc efforcez-vous de faire ça. Et parfois, pour certains élèves, ça demande vraiment de la recherche et de la préparation. Donc c'est important de pouvoir le préparer en amont. Surtout quand vous êtes un peu fâché contre cet élève. Préparer également des éléments tangibles et factuels pour situer l'élève par rapport aux attentes, par exemple, etc. Pour illustrer cet aspect factuel et l'importance de l'aspect factuel, je vais reprendre l'exemple des retards qui me semble que j'ai utilisé dans un autre épisode, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, plutôt que de dire « votre enfant est toujours en retard », ce qui est finalement une généralité et pas forcément exact, parce que j'imagine qu'il y a forcément des moments où il ne l'est pas, etc. L'idée, ce serait plutôt d'apporter des chiffres, par exemple, le nombre de retards. Et donc, le mois dernier, par exemple, votre enfant, il a été en retard tant de jours sur tant de jours d'école, par exemple. Voilà. Et plutôt que de dire aussi tel élève a beaucoup de retard dans les apprentissages, il s'agira d'exemplifier, de pouvoir dire, on attend d'un élève à ce stade de l'année ou à ce stade de sa scolarité d'être capable de faire tel et tel truc et regarder, ça c'est encore difficile pour elle ou elle n'arrive pas à le faire sans aide. En tout cas, d'exemplifier. Et ça aussi, ça se prépare. On peut pas, on va pas forcément pouvoir se souvenir de tout comme ça sur le vif. C'est pareil si vous avez mis en place des choses, des aides, de la différenciation, etc. C'est important de le signifier et donc de le penser en amont. Parfois, on fait des choses de manière tellement intuitive qu'on oublie qu'on le fait. Et puis, si c'est un entretien pendant lequel vous essayez d'avancer, de chercher des solutions, vous pouvez peut-être préparer quelques propositions, quelques idées, parce que l'idée dans un entretien, c'est de ne pas être sans cesse dans le constat des choses, mais aussi de pouvoir avancer, de chercher des solutions ensemble. Et là aussi, je reviens sur l'objectif, c'est-à-dire que parfois, on reçoit des parents parce qu'il y a un truc qui ne va pas, mais finalement, si on n'a pas déterminé qu'on voulait trouver des solutions et l'intention qu'on avait dans notre rendez-vous et qu'on n'a pas préparé certaines choses, on va tourner en rond. Puis le risque, c'est que le parent reparte avec la sensation qu'on l'a rencontré juste pour lui faire des reproches sur son enfant et puis qu'on le laisse chercher des solutions tout seul de son côté, mais qu'il n'y a rien eu de proposé. Donc ça aussi, ça se prépare. Et puis, au-delà de préparer le contenu, il faut se préparer soi pour l'entretien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se préparer en termes d'état d'esprit. Parce que la façon dont vous pensez à l'entretien, les mots avec lesquels vous l'évoquez pour vous-même ou pour les autres, la façon avec que vous avez d'aborder l'entretien, ça va avoir un impact sur votre manière de le mener ou de le subir. Donc c'est important de pouvoir travailler ça et avant, on va commencer par se sonder soi avant de commencer nos émotions, notre état d'esprit. L'idée, c'est de faire un point sur vos émotions. Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'idée quand vous pensez à cet entretien? Quelles sont les émotions que ça génère?
Et on peut aller aussi voir ce que nous indiquent ces émotions. Pourquoi je ressens ça? Et il n'est pas toujours d'ailleurs aisé de le faire tout seul. Et je vous conseille à minima de prendre une liste d'émotions pour vous aider à formaliser ça et à le faire à l'écrit. Une fois que vous avez identifié l'émotion, ben peut-être que vous allez pouvoir essayer d'identifier donc la pensée racine. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de cet entretien qui génère cette émotion? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire d'autre pour essayer de réévaluer la situation? Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de se demander, ben, du coup, les émotions que vous ressentez à l'idée de cet entretien, est-ce que ce sont des émotions qui vont vous être utiles et favorables pendant l'entretien ou pas? Et si ça ne l'est pas, on peut décider de l'émotion antidote ou de la force de caractère qui pourrait nous être utile pour pouvoir avoir un entretien qui soit favorable et qui soit plus agréable, le plus agréable possible. Et ça, c'est une façon aussi de poser une intention pour l'entretien. Un autre point utile pour se préparer à l'entretien, c'est de se mettre en empathie avec l'autre personne, d'essayer de se projeter et d'imaginer quelles peuvent être ses émotions, quels peuvent être ses besoins, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et dans le cadre d'un entretien avec les parents, et pour rester dans un élan professionnel de coéducation, il est parfois utile de se mettre à la place des parents et d'imaginer leur point de vue de parents. Et ça peut nous éviter de commettre quelques impairs, notamment quand on doit annoncer certaines choses. C'est important de pouvoir se dire, ok, comment on reçoit ça quand on est parent? Voilà. Un autre point dont je voudrais vous parler, ce sont les positions de vie. Je crois que je les ai déjà évoquées dans d'autres épisodes et notamment dans l'épisode sur l'analyse transactionnelle. Les positions de vie, c'est un concept qui vient donc de l'analyse transactionnelle, ce sont en gros des états d'esprit que nous adoptons lors de nos interactions avec les autres. Et donc, elles se résument en quatre positions. La première, c'est « je suis ok et tu es ok », donc c'est la position idéale d'égalité, de communication, de respect mutuel. La deuxième position, c'est « je ne suis pas ok et tu es ok », donc c'est une position dans laquelle on se dévalorise par rapport à l'autre personne, où on se met en situation inférieure. La troisième, c'est « je suis ok, mais tu n'es pas ok », donc là, c'est une position où on se croit supérieur à l'autre, où on estime qu'on sait mieux que l'autre, ou qu'on va peut-être prendre l'autre un peu de haut, même si on se dit rarement ça intentionnellement, mais quand on n'y fait pas attention, ça peut arriver, notamment dans les rendez-vous de parents. Et la dernière situation, c'est « je ne suis pas ok et tu n'es pas ok ». Et donc, c'est une position de vie où on perçoit les relations de manière négative, où on se sent mal, l'autre se sent mal, on se sent pas légitime ou pas à l'aise dans la situation et l'autre aussi. Et en fait, connaître ces positions de vie, ça va pouvoir vous aider à mieux comprendre et gérer vos émotions, celles de votre interlocuteur, et puis de favoriser un entretien qui va être plus constructif et plus équilibré. L'idée, c'est de se demander, avant l'entretien, dans quelle position je suis réellement, dans quelle position vous abordez cet entretien, et ensuite, si vous vous rendez compte, par exemple, que vous êtes dans une position plus-moins, c'est-à-dire je suis ok et l'autre n'est pas ok, ou on se sent un petit peu au-dessus de la personne qu'on va voir, ou à l'inverse, si je pense par exemple quand on se sent pas à la hauteur, pas légitime, qu'on a peur de ce que l'autre va nous dire, etc. L'idée, c'est de se dire comment on peut réévaluer la situation, qu'est-ce qu'on peut modifier dans notre façon de la voir ou sur quoi on peut s'appuyer pour se remettre dans une position « ok, ok, je suis ok, tu es ok » où on ne se sent ni supérieur à l'autre ni inférieur à l'autre. Voilà. Donc ça, c'était les petits points pour essayer de se préparer au mieux. Donc maintenant que, a priori, après ça, vous êtes préparé et que vous avez préparé votre entretien, il va falloir le mener. Donc, au moment de l'entretien, d'abord, on va penser au lieu et à la disposition du lieu, des tables, etc., en fonction de notre objectif et de notre intention. Récemment, par exemple, j'ai eu rendez-vous avec une personne. On était dans un rendez-vous à trois personnes. Et il y a une des personnes qui s'est installée à l'autre bout de la pièce, hyper loin, pour me parler. Et moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça très agréable. Et en fait, si je vous dis ça, c'est juste pour illustrer le fait que la façon dont on se place, elle est porteuse de sens. Donc, je vous laisse voir et choisir ce qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est côte à côte, de trois quarts, face à face, avec ou sans table? Est-ce qu'il y a un bureau entre vous ou pas? En fonction de votre intention, de vos besoins, mais juste de le faire, en tout cas, de manière consciente. Je ne vais pas vous donner un conseil et vous dire faites ci ou faites ça, parce que vraiment, il n'y a pas de recette magique. Ça va juste dépendre de votre intention, en fait. Est-ce que vous voulez mettre de la distance, mettre du cadre, ou au contraire co-créer? Est-ce que vous avez, je sais pas, un diaporama ou des photos à montrer? Vous allez tenir compte de tous ces éléments pour déterminer un peu la disposition qui correspond à ce que vous voulez. Tout ça, ça fait partie du langage non-verbal, qui est important. Il y a également le sourire, d'abord. On peut être solennel, sérieux et sourire. N'oubliez pas non plus que même si vous avez des choses désagréables à dire sur un élève, vous n'êtes pas en train de faire le procès des parents, mais vous travaillez avec eux, main dans la main, idéalement. Et si ce n'est pas encore le cas, ben vous êtes en train d'essayer de créer du lien parce que vous savez que c'est indispensable dans un esprit de coéducation. Donc, évitez d'arriver le visage complètement fermé et de garder les bras croisés, les lèvres pincées pendant tout l'entretien. Et puis, reconnectez-vous à l'objectif et à votre intention. Ça va vous aider aussi dans votre langage non-verbal. Ensuite, il est important de soigner l'accueil. Même quand on veut poser du cadre, rien n'empêche d'être accueillant, d'être poli, de proposer un verre d'eau, une chaise à la bonne hauteur, un endroit pour poser ses affaires, etc. L'accueil, ça fait partie du cadre et de notre posture professionnelle. Et puis, puisque c'est vous qui menez l'entretien, eh bien, c'est à vous qu'il appartient de poser le cadre. C'est-à-dire, eh bien, en début d'entretien, de rappeler le contexte, l'occasion, d'annoncer l'objectif, de présenter éventuellement vos intentions, mais pensez aussi à annoncer la durée de l'entretien. Parce que, comme je le disais tout à l'heure pour les objectifs, c'est quand on annonce le cadre, quand il est clair, qu'on s'autorise mieux à le poser. Donc, de cette manière-là, à la fin de l'entretien, quand vous verrez que la fin approche, eh ben, personne ne sera surpris si vous vous autorisez ou que vous vous obligez, si vous êtes bavard ou bavarde, à conclure. Et n'hésitez pas aussi à prendre vos notes de préparation pour ne rien oublier. Hein. C'est pas de la triche, au contraire, c'est très professionnel. C'est du professionnalisme que d'avoir préparé son entretien et de prendre ses notes pour ne pas oublier. Un autre point important quand vous allez mener l'entretien, c'est de donner la parole à l'autre, d'écouter, de synthétiser, de reformuler. Selon le type d'entretien, comme on a vu tout à l'heure, ben, on donnera plus ou moins la parole à l'autre personne, mais en tout cas, on ne peut pas faire un entretien, notamment dans le cadre d'un entretien avec des familles, en étant dans un monologue complet. Soyez très attentifs, concentrés et surtout, essayez de reformuler, d'écouter et de reformuler les propos ou de les synthétiser pour pouvoir être sûr d'avoir compris les mêmes choses. Et en plus, ça évite de s'enflammer sur la base d'un quiproquo. Et puis, ça contribue aussi à créer un climat de confiance et de coopération. C'est important de pouvoir poser des questions ouvertes. Et les parents ont aussi une connaissance de leur enfant qui peut nous aider. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander ce qui fonctionne à la maison, leurs ressentis, ce qu'ils ont déjà mis en place. Et en plus, vous pourriez être surpris. Parfois, on imagine que rien n'est fait. Et en fait, quand on laisse la parole aux autres, on se rend compte que il y a des choses qui ont été mises en place qu'on n'imaginait pas, qu'on ne voit pas de l'école. Et ça permet aussi d'être un bon point d'appui. Justement quand on cherche des solutions ensemble. Un autre point pendant l'entretien, c'est d'être factuel et de s'appuyer sur le réel. Je vous en ai déjà parlé pour la préparation, mais c'est vraiment une attention à avoir pendant tout l'entretien, de faire attention à ce qu'on dit et d'être le plus factuel possible. Il peut être aussi intéressant de prendre des notes pendant l'entretien quand on peut, sans que ça rompe la communication, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre des notes. Ça peut être aussi une belle façon de terminer un entretien, c'est-à-dire de formaliser les échanges et de chercher à garder une trace pour éventuellement faire un compte-rendu. Si des décisions ont été prises pendant l'entretien, c'est important à la fin de l'entretien de les redire et de les écrire, de pouvoir en garder une trace. Donc là, on arrive sur la conclusion de l'entretien. Et donc, pour conclure, on va pouvoir résumer les échanges, demander aussi aux personnes si elles sont satisfaites ou ce qu'elles ont envie de retenir de l'échange, comment elles en repartent. Et on peut aussi se donner une prochaine échéance pour éventuellement faire un bilan. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes pendant l'échange, je vous invite vraiment tout de suite après l'échange à prendre deux petites minutes pour écrire pour vous ce que vous voulez en garder, ce qui a été dit, parce qu'on croit qu'on va s'en souvenir et en réalité on s'en souvient pas toujours. Donc si je récapitule tout ce que je vous ai dit là sur les entretiens avec les parents, mais qui peuvent facilement se transposer à d'autres types d'entretiens, un entretien ça se prépare dans son contenu. Il faut en clarifier les objectifs, il faut clarifier nos intentions et on peut aussi déterminer le type d'entretien, c'est-à-dire sa visée et le type de directivité de l'entretien. On va aussi préparer du contenu factuel, des données, des observables, même quand tout va bien. On va apporter du cadre en annonçant le temps, en pensant à l'accueil, à la disposition, en annonçant nos objectifs, en étant le plus explicite possible. Et puis, il est important, quel que soit le type d'entretien, d'écouter aussi l'autre, de reformuler les propos et de penser à conclure son entretien. Voilà, j'espère que cela vous aura apporté de quoi penser ou repenser certains points de vos entretiens avec les familles ou autres, et n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, que vous soyez professeur, directeur, directrice, formateur, formatrice ou autre, si vous souhaitez réfléchir et progresser sur votre technique d'entretien ou si vous voulez vous préparer pour un entretien professionnel particulier, sachez que je peux vous accompagner en coaching, en mentoring ou bien vous former. Et si vous avez un besoin en ce sens, n'hésitez pas à me contacter sur mestrucsdecoach.fr/contact. La relation avec les familles est une des thématiques que j'aborde dans mon livre « Gestion de classe, mode d'emploi » qui est paru aux éditions de L'Étudiant et qui est donc disponible en librairie. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire deux fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.